France Culture.
Hildegard de Bingen, génie cosmique. Une grande traversée d'Aurélie Sfèze et Benjamin Hu. Épisode 2, la compositrice visionnaire.
Hildegard a ceci de particulier qu'elle est effectivement la première. Elle est la première à avoir fondé un couvent de femmes seules. Elle est la première à avoir composé de la musique, donc avoir porté par écrit la musique qu'elle ou son collectif de femmes a composé pour les offices. Elle est la première à avoir composé une pièce dramatique chantée, Lordo Virtutum.
Je ne sais pas si j'appellerais cela un style, mais plutôt une voix personnelle. Parce que lorsqu'on entend sa musique, on sait immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un chant grégorien. La façon dont elle traite les modes, l'agilité avec laquelle elle utilise la voix, la façon radicale dont elle monte dans les aigus et sa manière d'aller dans les graves, très étirée et complexe, sa manière d'utiliser la notation, le texte, toutes ces choses sont personnelles et ce n'est vraiment pas un style, mais une voix.
Rencontrer Hildegard, décider de savoir la déchiffrer, l'apprendre par cœur, ça nous a pris des années. Ça a été aussi une odyssée pour nous, une odyssée dans nos vies. Et ça, c'est assez miraculeux, on peut dire, la manière dont cette partition d'il y a 1000 ans est devenue un véhicule pour nous. En fait, ça nous a fait littéralement avancer dans notre inscription dans le monde.
Elle a un cerveau qui est ouvert à tout, si vous voulez. Elle n'est pas du tout sclérosée, tout l'intéresse. Et puis surtout, c'est une éponge, donc elle retient tout. Et puis en plus, elle arrive à faire des synthèses, donc c'est un cerveau, on peut dire, génial.
C'est dans ces paysages majestueux et légendaires de la vallée du Rhin qu'Hildegard a composé les plus belles pages de la musique médiévale. Sur les parchemins, on n'écrit pas des notes, mais des neumes. Une notation carrée qui indique la place de chaque syllabe. 80 ans avant la naissance d'Hildegard, Guido d'Arezzo, un moine italien, a inventé la gamme de Do telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le XIIe siècle vit un renouveau artistique et musical incroyable. Les cathédrales romanes vont bientôt se métamorphoser en édifices gothiques. Dehors, on chante l'amour courtois et les poèmes épiques. Mais discrètement, dans les alcôves de son abbaye, Hildegard révolutionne le chant grégorien. Elle est la première compositrice à signer 70 partitions de son nom. Il y a 1000 ans, une religieuse qui revendique ses créations, ça n'existe pas. Elle s'affranchit, transgresse et compose une musique religieuse d'une autre galaxie. Guidée par l'inspiration et la liberté, elle explose les codes du chant grégorien classique. Dans son abbaye, ça chante jour et nuit, pour communier entre sœurs, pour apprendre à lire et aussi pour guérir. La musique est un remède et régulièrement, Hildegard joue de la harpe en chantant pour apaiser les malades. Ce qui est fou et nouveau, c'est l'invention d'une musique incarnée, vivante. Dans ses mélodies, on entend sa personnalité complexe et tout ce qu'elle ressent. Elle nous laisse l'héritage d'une transe lumineuse, épidermique, futuriste. Ses chants de l'extase traversent le temps et résonnent avec une modernité troublante.
Moi, j'étais petit chanteur à la Croix-de-Lorraine, donc l'art choral, ça m'intéressait.
Pierre Lemarquis, neurologue.
Je me suis toujours intéressé aux effets de l'art, de la musique sur le cerveau en particulier. Donc je devais un jour ou l'autre rencontrer Hildegard von Bingen. Je m'intéresse aussi à la musique du Moyen-Âge, de la Renaissance. Et puis c'est une personnalité exceptionnelle. Donc un jour ou l'autre, on finit par la rencontrer. Puis les chants de l'extase, c'est quelque chose qu'on a envie d'écouter. Puis petit à petit, on s'aperçoit qu'elle connaissait bien les connaissances médicales de l'époque. Et puis pour quelqu'un qui s'intéresse à l'art qui guérit, à l'art qui soigne, Hildegard von Bingen, c'est ça. Un phare.
Thank you.
c'est une musicienne hors pair, enfin c'est un petit peu, j'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu dans la veine de Léonard de Vinci quelques siècles avant. Elle s'intéresse à tout, elle a lu ses classiques, hein. Elle se défend toujours d'avoir une culture, d'avoir été formée, mais on voit parfaitement qu'elle a lu Ovid, qu'elle connaît vraisemblablement Aristote, qu'elle connaît bien Hippocrate, donc elle connaît tous ses classiques, et elle connaît quand même aussi le latin. C'est une éponge, quoi. Tout ce qui l'intéresse, elle le retient et puis elle le transfigure.
Vous y croyez, vous, au génie ?
Oui, oui, bien sûr, le génie. Alors souvent, hein, ce qu'on retrouve chez les génies, ils ont une mémoire exceptionnelle, donc ils retiennent tout, comme un magnétophone, comme des éponges. Ils ont envie de faire quelque chose, ils sont motivés. Ils absorbent tout ce qui existe dans leur temps, et puis le transcendent, ils vont plus loin. Ils sont très proches des autistes, hein. Les autistes ont souvent toutes ces capacités, hein, c'est même. Donc Hildegarde, par son génie, donc, va faire des associations, fonctionne comme un enfant, mais elle a quand même un côté très adulte. Elle n'a pas peur de tenser des papes, des gens très importants. On ne peut pas lui marcher sur les pieds, quoi. Elle a quand même, c'est une forte personnalité. Alors je pense qu'elle a un charisme inouï qui fait que même les plus grands la reconnaissent comme quelqu'un de supérieur.
J'ai découvert la musique et la personne de Hildegard von Bingen il y a 30 ans à peu près.
Sophie Janin, directrice de la maîtrise musicale de Radio France.
Et j'ai trouvé un langage absolument hors norme. Et ça résonnait tout de suite en moi. À 20 ans à peu près, là je me suis intéressée davantage et j'ai exploré vraiment comme interprète et puis plus loin comme chef. Quand on est en contact avec la musique Hildegard von Bingen, il y a une virtuosité vocale, il y a une sorte d'extase, il y a une peinture musicale autour de chaque mot. Les syllabes sont appuyées, sont utilisées dans un sens extrêmement expressif. Mais pour moi, il y a aussi cette modernité dans la virtuosité qui n'était pas du tout d'époque, dans un temps où la musique n'avait pas vraiment le droit d'être belle pour elle-même, mais elle devait toujours servir à autre chose. Et là, on voit qu'au contraire, c'est l'art et le grand art que, en fait, le message est porté davantage. Elle va utiliser certaines mélodies, certains intervalles pour accentuer la beauté, l'effervescence ou la douleur d'un mot spécifique. Et c'est là où elle est également très impressionnante, c'est qu'elle est tellement fidèle à elle-même. Et comme tout grand compositeur, quand on entend la musique en fermant les yeux, on reconnaît la personne. C'est tout à fait exceptionnel à l'époque. Il faut attendre le XVIe siècle, après le XVIIe siècle, pour avoir les Maddalena Casulana et les personnes qui ont suivi Aleotti, Leonarda. Il y a des femmes qui vont suivre en Italie. Mais ça, c'est encore une fois quand on passe à des œuvres publiées. Donc on est déjà dans une autre réalité. Dans le monde de Hildegard, il faut se déplacer physiquement. Il faut partager ses écrits manuscrits d'une façon. Et c'est là où on voit sa correspondance absolument intense à droite et à gauche, partout en Europe. Elle a une renommée internationale. Donc pour moi, c'est la première à être connue au-delà des frontières du monastère et de vraiment être une autorité intellectuelle, spirituelle et musicale autour d'elle. Victorious as a lamb, ultra que sublida, like such a sea,
Dans le sud de la France, s'est développé effectivement ce qu'on appellera la poésie des troubadours et qui développe une esthétique et une éthique, je dirais même de l'amour, qu'on a qualifié de fin amour ou amour courtois.
Laurence Moulinier, historienne spécialiste d'Hildegarde.
C'est un thème extrêmement diffusé, ce sont des compositions qui sont très prisées, les jongleurs, les poètes vont de cours en cours présenter leurs compositions, la musique évidemment a un rôle important là-dessus, et ce sont des compositions qui mettent en scène un amour impossible, en gros, entre la dame inaccessible et un homme, souvent le vassal du seigneur, qui tente de la conquérir. L'amour courtois lui-même a fait l'objet de relectures, on a cessé de croire que c'était une promotion de la femme, comme Michelet tendait par exemple à le croire. En fait, il s'avère que c'est une femme complètement abstraite qui est chantée par cette poésie. Mais elle est très en vogue, elle est très prisée. Et donc, ce phénomène du Sud va gagner le Nord. Aliénor d'Aquitaine n'y est pas pour rien. Elle est elle-même la petite fille du premier troubadour. Et quand elle est reine d'Angleterre, elle va importer en quelque sorte cette culture. Et il faut bien avoir présent en tête aussi l'intense circulation des hommes, des idées, des livres et des œuvres au Moyen-Âge, même si on n'a pas le TGV ou l'avion. Ça circule beaucoup, ça diffuse. Donc effectivement, les thématiques des troubadours vont être imitées dans le nord de la France par des hommes qu'on va appeler trouvères. Je rappelle que troubadour, ça vient du verbe trobar qui veut dire trouver. Ce sont qui trouvent, qui inventent des formes poétiques neuves. Et puis le phénomène va avoir très rapidement aussi des homologues en Allemagne avec ceux qu'on appellera les Minnesänger qui eux aussi chantent cet amour parfait, raffiné, codifié, etc., etc. Et ça évidemment, ça dessine un contexte dont tout le monde peu ou prou est au courant, même si bien sûr tout le monde n'a pas accès à ces compositions. C'est dans l'air du temps. J'entends par là qu'une mystique du XIIIe siècle comme Mechthilde de Magdebourg, par exemple, qui écrira en allemand, est elle aussi imprégnée de courtoise tout en parlant de Dieu. Il y a des images, il y a des thématiques, il y a tout un lexique.
Il y a une porosité.
Il y a une porosité entre les niveaux de culture, oui, je pense vraiment.
Dans le cas d'Hildegarde, il s'agit de l'ordre bénédictin.
Benjamin Bagby, directeur de l'ensemble musical Sequentia.
And each of these two has
Et chacun de ces deux ordres a une école spécifique, une manière spécifique de former les gens. Les cathédrales ont des écoles pour les garçons, et les monastères ont des écoles pour les garçons et les filles. Dans le cas d'Hildegarde, c'est donc l'école monastique qui est le lieu d'apprentissage. Ils n'ont pas de contact avec le monde extérieur. Ils vivent dans un cloître. Peut-être que dans leur enfance, ils se souviennent de quelque chose. S'ils sont issus de familles nobles, ils se souviennent de quelque chose de la musique profane, ou même de la danse, ou des instruments, ou de tout cela. Mais une fois qu'ils rentrent au monastère, ils ne sont plus dans ce monde. Ils n'entendent plus cette musique. Ils travaillent en permanence. C'est donc un monde à part, le monde de l'école cathédrale ou de l'école monastique. Et puis, il y a le monde des familles laïques et aristocratiques. Disons que la famille d'Hildegarde connaissait peut-être la musique de divertissement, que ce soit de la musique de divertissement de haute qualité ou de basse qualité. Mais il s'agissait bien d'un divertissement. Elle a été conçue pour que les gens se sentent bien. Ils écoutaient donc des histoires. Ils écoutaient des chansons d'amour. Ils écoutaient des chansons historiques. Ils écoutaient des chansons généalogiques. Ils écoutaient toutes sortes de musiques qui divertissent les riches et les orgueilleux. Et c'est un autre type de musique. Par exemple, dans le cas des Minnesänger, les chanteurs étaient des poètes de cour qui chantaient l'amour. Et puis, il y a un autre type de musique avec lequel nous n'avons absolument aucun lien. C'est la musique populaire. La musique de la rue, du marché, la musique du divertissement populaire. Nous n'avons aucune transmission de ce monde parce qu'il n'a jamais été écrit, parce que la technologie de l'écriture appartenait à l'Église et à l'aristocratie. De plus, si vous aimez la musique populaire, dans quelques mois, vous changerez de goût et vous passerez à une nouvelle chanson. Il n'y a aucune raison d'écrire quoi que ce soit parce que c'est dans notre tête.
So this is the big division between.
C'est donc la grande différence entre la musique savante à la cour et la musique populaire dans la rue, et les différents types de musique religieuse.
And the different types of religious music.
Dans l'abbaye d'Hildegarde, en Allemagne, les bénédictines perpétuent les rites de la sainte. Elles travaillent à la vigne, à la bibliothèque, à la boutique, à l'administration, animent des séminaires, écrivent, chantent et jouent de la musique. Sœur Lydia, la musicienne, nous ouvre les portes du jardin.
Wunderbar, paradisisch.
Vous êtes au paradis ici ? C'est le paradis ?
Ja, das ist ein Paradies.
Oui, c'est paradisiaque. Surtout qu'on est au printemps et que les vignes verdissent.
Weinberge werden ganz langsam grün, das ist wie im Paradies. Auch unser Garten ist ein schönes kleines Paradies.
Notre jardin est un petit paradis joliment fleuri en ce moment.
Sœur
Béatrix s'en occupe très bien.
Und das ist
c'est l'endroit où on se promène, où on peut se retrouver seul avec soi-même.
Für uns sind.
On se met sur ce petit banc.
Lydia, est-ce que vous venez de temps en temps ici, dans le jardin, écouter juste la musique des oiseaux ?
J'ai la chance d'avoir une chambre qui donne sur le jardin et j'entends le chant des oiseaux chaque matin. Moi, j'aime me promener dans ce jardin pour voir les fleurs magnifiques et les arbres. C'est ça qui est important pour moi. Et puis, je viens ici pour me reposer.
Pourquoi vous avez choisi de rentrer dans les ordres, particulièrement dans cette abbaye, dans l'abbaye d'Hildegarde? Pourquoi ici?
Im Grunde genommen habe ich mir diesen Ort nicht ausgesucht, sondern Gott hat diesen Ort für mich ausgesucht.
Je n'ai pas vraiment choisi ce lieu. C'est Dieu qui l'a choisi pour moi. Un jour, je suis allée à Eibingen. J'ai garé ma voiture sur le parking et j'ai su que c'était ici. J'ai aimé être professeur de musique, mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire ce métier toute ma vie, même si je l'ai aimé. J'ai toujours adoré les habits des nonnes. J'étais fascinée par leur voile en particulier. Au début des années 80, quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans une abbaye bénédictine près de Francfort, j'ai eu la sensation que je pourrais y trouver ma voie, et cette idée ne m'a plus jamais quittée. La musique, plus que les arts plastiques, est la chose qui nous rapproche le plus des cieux. Elle permet d'atteindre les tréfonds de l'âme qui seraient inaccessibles avec les images. Saint Augustin disait « Qui chante bien, prie deux fois ».
Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile à chanter pour vous ?
Es ist nicht einfach, dieser große Tonumfang. Der ist schon sehr bezeichnend.
Les grandes tessitures sont difficiles et particulières.
Man braucht
Il faut une voix mature et formée. Et pour moi, ce n'est pas si dur parce que j'ai une voix aguerrie.
Für mich ist es jetzt
mais pour les sœurs
so
débutantes, c'est plus compliqué
Stimme,
de chanter des compositions
d'Hildegarde. Je
suis peut-être un peu submergée parce que la musique, ça m'émeut toujours.
Weil Musik bewegt mich immer. Wie soll ich das beschreiben?
Comment décrire ça? Quand je joue de l'orgue ou de la flûte, j'ai toujours le sentiment d'avoir reçu un cadeau de Dieu, celui de pouvoir jouer de la musique ou de chanter. Mais c'est très difficile à décrire.
Je ne sais pas comment je le décrire.
Vous pensez que Dieu aime la musique?
Il
y a ce théologien, Karl Barth, qui disait une bien jolie chose. Lorsque les anges jouent pour Dieu, ils jouent du Bach, et lorsqu'ils jouent entre eux, ils jouent du Mozart, et Dieu écoute aux portes avec un sourire en coin. Et mon chant préféré, c'est Caritas Abundat. Le texte dit « L'amour abonde en toutes choses, des profondeurs jusqu'au-dessus des astres. L'amour est infini, car au Seigneur très puissant, il donna le baiser de la paix. Dans les années 90, une sœur aux États-Unis a fait un remix pop d'Hildegard.
Alors à l'époque d'Hildegard, on est dans une vraie floraison de choses nouvelles en matière artistique et aussi intellectuelle. Pas seulement en Germanie, mais dans toute l'Europe.
Geneviève Bührer-Thierry, historienne médiéviste.
On voit se développer d'abord de nouvelles écoles, ces nouvelles écoles qui vont donner naissance à l'université au XIIIe siècle, ou à la fin du XIIe. Ces écoles portent de nouvelles pensées théologiques, la plus célèbre étant celle d'Abélard, l'amant d'Héloïse, une autre femme extrêmement savante et absolument contemporaine d'Hildegard. Et à côté de ça, on a le développement d'une nouvelle architecture que nous appelons architecture gothique. Alors cette architecture dite gothique, elle sort quand même de terre à la fin du XIIe siècle. Je dirais que Hildegard a vécu l'essentiel de sa vie dans un monde qui est encore le monde de l'architecture romane et pas encore dans celui de l'architecture gothique. Néanmoins, cette architecture gothique qui promeut, comme on le sait, des formes plus hautes et surtout plus lumineuses, a quelque chose à voir avec ce renouveau artistique qui met l'accent sur la lumière comme véhicule de la divinité. Et ça, c'est le message d'Hildegard. La lumière vivante, hein, c'est ce qu'elle dit. J'ai vu la lumière vivante. La lumière vivante, c'est aussi celle qui va entrer par les vitraux des cathédrales à la fin du XIIe siècle.
Le feu, c'est moi l'énergie suprême, l'énergie ignée. C'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie, vie ignée de l'essentialité divine. J'enflamme la beauté des terres, je luis dans les eaux, je brûle dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Ensuite, je vis une splendide lumière et, dans elle, une forme humaine, couleur de saphir, qui brûlait d'un feu brillant et suave. Et cette splendide lumière pénétra tout ce feu brillant. Et ce feu brillant s'infusa dans cette splendide lumière. Et cette splendide lumière et ce feu brillant pénétrèrent toute cette forme humaine, ne faisant qu'une seule lumière par une même vertu et une même puissance. Et, de nouveau, j'entendis cette lumière vivante.
Hildegard, dans sa tradition héritée de l'Antiquité, elle est très au courant des quatre éléments. Elle en parle souvent.
Pierre le Marquis.
Donc, la terre, l'air, l'eau et le feu, mais elle place le feu en premier. C'est-à-dire que pour elle, Dieu, c'est l'énergie ignée, c'est le feu. Quoi. Donc, c'est comme ça qu'elle se représente, recevant ses visions avec des flammes qui sortent de la tête. Mais les phénomènes visuels, c'est souvent des éclairs. Donc, ça nous donne aussi des flammes, ça nous donne le feu. Quoi. Dans les migraineux célèbres, on a des musiciens, mais les musiciens, ça les a plutôt inhibés. Quoi. Donc, on avait Chopin, on a Tchaïkovski, on a Debussy. Mais il y en a un qui qui s'en est servi, c'est Wagner. Alors Wagner, on n'est pas loin d'Hildegard von Bingen. Hein. Wagner, il se sert de ses migraines au début de Siegfried. Dans la scène 1 de l'acte 1 de Siegfried, on a le nain Mime, qui est un forgeron, qui est en train de forger une épée pour Siegfried. Et Siegfried est tellement fort qu'il va casser toutes les épées qu'il va forger. Et là, Wagner décrit une de ses migraines, c'est-à-dire qu'il tape sur l'enclume, et puis il va taper de plus en plus fort, c'est vraiment la migraine qui arrive, qui est pulsatile, et puis après il y a des éclairs dans les mises en scène, les metteurs en scène qui sont au courant de ces migraines, ils font arriver plein de flashs sur la scène, donc c'est vraiment la crise de migraine qui frappait Wagner, il parle de douleur qui n'en finit plus, et Mime dit la même chose, donc pour Wagner la crise de migraine avec ses éclairs, les flammes, elle est bien représentée. Je pense que c'est vraiment la flamme au sens, elle le dit bien, c'est l'énergie suprême. Et puis quand elle décrit le Christ, elle le décrit toujours dans un grand soleil, enfin dit qu'on se brûlerait moins les yeux à regarder le soleil qu'à regarder le Christ.
Au musée Cluny à Paris, il y a une salle où on peut voir les grosses têtes en pierre des rois de Juda qui surplombaient la façade de Notre-Dame de Paris et qui ont été décapités pendant la Révolution. C'est ici que Benjamin Bagby, le musicologue du Moyen-Âge et le chef de l'ensemble Sequentia, a eu envie qu'on le rejoigne pour un tour de chant Hildegardien avec la chanteuse Camille Fritsch.
Il y a une partie de chaque monastère qui s'appelle scriptorium. Et c'est un lieu pour l'écriture. Et il y a des moniales ou des moines qui sont spécialisés pour ça. Ils ne font que ça toute leur vie. Et les notateurs pour la musique étaient bien sûr censés de faire tous les livres de chants grégoriens et aussi la nouvelle création comme Hildegard.
L'amour inonde toutes choses, du fond de l'abîme jusqu'aux plus hautes étoiles, chérissant toutes choses, car il a donné au roi suprême un baiser de paix.
Le premier extrait, c'est un antiphon de Hildegard, et c'est en mode de ré. Mode de ré, c'est le mode le plus stable. Pour un texte qui dit « Caritas abundat in omnia », qui veut dire l'amour inonde toutes choses. C'est le grand chant de Hildegard sur l'amour. C'est l'amour, oui. C'est aussi la perfection de la vie musicale qui est harmonieuse. C'est quelque chose de ratio, de harmonie, de balance. Et c'est ça qui est très fort dans ce mode de ré.
De façon générale, en musique ancienne, la gestion du souffle est souvent un petit peu différente de celle qu'on peut rencontrer dans le monde de la musique lyrique plus tardive, notamment.
Camille Fritsch, chanteuse.
Parce qu'on est dans une stylistique vocale qui est assez différente. On recherche souvent une espèce d'idéal de pureté dans la spiritualité qui peut s'exprimer, par exemple, dans ce genre de musique. Dans les musiques de la Renaissance aussi, on a beaucoup ces questions-là. Donc, en tant que chanteur, ça veut dire qu'on est vraiment dans la recherche d'un cœur, du timbre de la voix, qui soit très maîtrisé, donc sans se fatiguer trop. Il y a quelque chose de la transe, quoi, qui tourne beaucoup. De savoir où on va, et effectivement, de savoir où on arrive pour éventuellement pouvoir gérer le trajet jusque-là. Après, ça dépend beaucoup de l'état, du coup, dans lequel on se met. Quand on est au début du morceau, qu'on rentre dedans, puis au bout d'un moment, on peut rentrer dans la chose, se laisser porter. Il y a une énergie qui est vraiment convoquée par ça, par l'exercice.
Alors, il y a deux choses qui m'ont captivé chez Hildegarde.
Léo Henry, romancier.
Il y a la quantité de choses qu'elle a faites. Il y a vraiment la liste d'accomplissements dans une vie d'individu qui est colossale. Et il y a aussi le fait que c'est une des rares traces de cette époque. En fait, c'est condensé dans une personne, dans un corps, tout ce qu'on sait d'une certaine époque, le XIIe siècle. Et donc, ça me permet, en tout cas dans le livre, de reconstituer cette époque-là. Hildegarde est exceptionnelle, et Hildegarde est la première, mais c'est aussi parce que c'est la seule, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait rien de tout le reste qu'il y a autour. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est en ça que ça en fait une personne héroïque, c'est-à-dire qu'un héros, c'est une façon d'essayer de dire le monde d'une façon spécifique. Et là, elle est très seule, en fait. Et le fait que la première personne à avoir fait ces choses-là soit une femme, c'est aussi le token ultime. C'est-à-dire qu'à partir de là, on n'est plus obligé de citer aucune femme. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, on connaît à peu près deux femmes, quoi, avec Aliénor d'Aquitaine. Et c'est la seule qui ne soit pas, par ailleurs, une monarque, en fait. Donc, c'est un personnage qui est très valorisé pour ça, mais qui, du fait qu'elle est la première, elle est aussi la seule, en fait. Et donc, ça invisibilise absolument tout. C'est-à-dire que si on s'émerveille qu'en tant que femme, elle ait fait tout ça, c'est aussi parce qu'on n'a aucune trace de tout ce que les femmes faisaient à cette époque-là, qui est sans doute tout aussi remarquable. En fait, l'héroïsation, ça crée aussi un statut exceptionnel et de sortir les gens de leur environnement, et alors qu'on peut en faire aussi des témoins de ce temps, ou des possibles. C'est intéressant parce que les gens ne le savent pas, de dire le premier compositeur de l'Occident, et ben en fait c'est une femme. Et pour le coup, dans l'histoire des compositeurs de l'Occident, il n'y en a vraiment pas légion dont on se souvient et qu'on met en avant. Il n'y a pas de compositeurs dont on sait qu'ils ont signé la partition. De la musique commence à être écrite selon l'écriture moyenâgeuse, donc c'est pas les techniques antiques d'écriture de la musique. Mais jusqu'à ce point-là, on n'avait pas la preuve que c'était telle personne qui avait supervisé l'écriture de tel morceau, en fait. La musique, ça a à voir avec l'autorité, en fait, ça a à voir avec qu'est-ce que c'est qu'un auteur, qu'est-ce que c'est qu'une personne qu'on peut relier en tant qu'individu avec une biographie qu'on peut relier à une œuvre. Et c'est pour ça qu'elle est la première. Elle a signé.
Moi, une étape qui a été déterminante, c'est au CNSM de Lyon où j'ai fait mes études, d'apprendre à déchiffrer les neumes grégoriens, qui étaient la première façon de transcrire la musique avant l'apparition des portées, notamment. Et le neume est la transcription du geste à l'écrit. C'est une forme d'alphabet gestuel dessiné en quelque sorte. Donc il y a des points, des virgules, les virgas. Il y a des assemblages de deux ou trois notes qui font des espèces de vagues parfois. C'est quelque chose qui peut évoluer vers un vibrato, qui en tout cas suggère une activité très forte. Et le grand jeu, c'est de voir qu'est-ce que ça représente vocalement, ces gestes-là. Est-ce que le geste de la main, qui est traduit par écrit, sert lui-même à traduire un geste vocal ? Et qui ouvre également sur certaines formes d'expérimentation vocale, je pense, d'aller chercher un autre type de son.
Cet instrument, c'est une harpe du XIIe siècle.
Benjamin Bagby.
C'était fait après une sculpture sur la cathédrale de Chartres, qui date de la même époque d'Hildegarde. Et c'est un instrument avec 15 cordes posées sur le genou et une tête de lion. Si je commence avec gravitas, j'ai le mot de ré. Ça, c'est ré. La quinte, l'octave, subfinalis. Ça, c'est extrêmement connu au Moyen-Âge. Et puis, très connu chez Hildegarde aussi, c'est le mode de sol. Il y a un subfinalis sur fa. Tonos, ça veut dire trois tons, tritonos. Et c'est typiquement, c'est la grande dissonance dans le mode sol. Il y a est un mode ouvert et c'est le soleil.
Hildegarde, en fait, quand j'ai commencé à chanter, j'avais la sensation que tout le monde voulait me mettre Hildegarde dans les pattes.
Et ça, c'est une partie de sa personnalité qui est plus difficile.
Et j'étais aussi un peu suspicieux du fait de son statut, un peu de femme illustre.
François Chéniaud, danseur.
J'avais toujours un peu l'impression que c'est les arbres qui cachent la forêt. Et que si l'histoire, elle transforme certaines figures en héroïnes, je me disais, c'est peut-être plus intéressant d'aller voir derrière. La première sensation quand j'ai écouté plusieurs morceaux, c'est « Ils se ressemblent tous ». C'est quoi ? C'est du chant grégorien ? Quelle place ça a dans la généalogie de l'histoire de la musique ? Moi, venant de la danse, c'est vrai que je suis souvent attiré par la musique, aussi parce qu'elle va permettre de véhiculer que la danse ne peut pas. Et ma première impression, c'était effectivement que c'était une musique qui, dans laquelle c'était dur de déceler en fait les points de tension et de résolution.
C'est ça, en fait, il n'y a pas de tension.
Marie-Pierre Bréban, musicienne.
C'est pas une musique harmonique, c'est une musique horizontale et pas verticale. Il y a une direction, c'est pas vaporeux, je dirais pas ça, parce que c'est assez précis, mais il n'y a pas ce que tu cherches, enfin ce qu'on entend habituellement dans les musiques plus modernes, de tension détente, de tension harmonique qui se résout. Il n'y a pas de résolution.
Pour moi, c'est comme un chemin qui n'aurait pas de point d'arrivée. C'est-à-dire, on est sur un chemin, mais on peut décider d'en faire 1 kilomètre ou 3000 kilomètres, mais qu'en fait, le chemin lui-même ne contient pas sa fin. C'est comme si c'était un chemin qui avait un potentiel infini. C'est fantastique, mais appris au départ, ça me déroutait et ça me semblait manquer de ce qui m'attire ou m'attirait dans la musique. Une relation à la durée, une relation à l'émotion, à l'expression, au drame. Et là, je me disais, mais quoi faire d'un chemin sans fin ? Chaque morceau, chaque poème, dans ma perception, est très distinct de l'autre. Ma première perception que tout était égale, elle s'est évaporée avec le travail. Et maintenant, selon le mode, selon le thème, selon le choix qu'on a fait rythmiquement, chaque morceau est très distinct et chaque morceau peut évoquer une saison, un type de mouvement, un type d'émotion. Par exemple, Frondens Virga, dans notre performance, on se dit, moi c'est comme ça que je le vois, c'est la fin de l'hiver et un matin on ouvre les fenêtres et en fait la brume s'est transformée et il y a un soleil un peu clair et une couleur nouvelle dans l'herbe et ça c'est lié à la dramaturgie de notre spectacle, à la musique d'Hildegarde, au texte lui-même. Mais si on parle de la mélodie elle-même, moi, c'est des images beaucoup plus abstraites. C'est vraiment presque de l'art graphique ou de l'art minimal ou de... C'est comme ça un jeu sur de la variation, en fait. Presque du codage, en fait. Ouais, c'est très mathématique, en fait.
Le spectacle qu'on joue avec François Chéniaud s'appelle comme... Le recueil des pièces d'Hildegarde de Bingen, donc Symphonia Harmoniae Celestium Revelationum. Et dans ce spectacle-là, je joue de la bandoura. Donc la bandoura, c'est un instrument à l'origine traditionnelle ukrainien. Donc ça donne un son très particulier et qui peut être... On ne sait pas, la première fois que j'ai entendu, moi je ne savais pas si c'était un instrument oriental. Il y avait un pont entre la musique traditionnelle d'une manière générale et la musique modale. Donc ça convenait bien pour jouer cette musique.
En fait, j'aime pas l'idée de faire la musique d'Hildegarde une espèce d'exemple parfait de world music. Je pense qu'elle est très située historiquement et c'est ça qui est intéressant, c'est le fait qu'elle soit située au XIIe siècle, très reliée à l'histoire du chant grégorien. Donc en fait, elle est quand même très connectée à la manière dont la musique occidentale s'est construite. mais c'est plutôt pour moi qu'elle perd... De brouiller la manière dont on l'aperçoit aujourd'hui, c'est pas pour recréer une espèce de world music qu'aurait ni histoire ni frontières. C'est plutôt justement pour venir réinterroger la manière dont la modernité, la postmodernité, a reconstruit une espèce d'inconscient culturel en faisant penser que certaines musiques ne pourraient pas venir d'Europe. Et en comprenant que la région rhénane du XIIe siècle a pu historiquement et géographiquement et culturellement rendre possible cette musique, enrichit considérablement notre perception de quelle est l'histoire de notre Occident chrétien. Et pour moi, c'est plutôt une manière d'enrichir cette perception-là plutôt que de vouloir la propulser dans un espace anhistorique et complètement sans frontières. Aujourd'hui, jouer de la musique du XIIe siècle en 2023, 2024, 2025 permet de faire vaciller la manière dont les récits historiques se font et qui voudraient créer des espèces de séparations très étanches entre l'Orient et l'Occident. Et en fait, si on observe peut-être avec plus de candeur et moins de préjugés certaines de nos archives, certaines de ce qu'il y a dans nos caves du XIIe siècle, ça vient faire exploser en fait ces récits-là. Mais c'est pas pour en nier l'histoire, c'est au contraire pour s'appuyer sur cette histoire, pour faire vaciller les récits postérieurs qui ont voulu créer des hiérarchies entre une musique occidentale savante, tempérée, verticale, versus une musique primitive, uniquement liée à la transe et sans aucune valeur musicologique. C'est une manière de contredire ces hiérarchies.
Dès que je pense à quelqu'un comme Hildegard ou d'autres femmes pionnières, elles ont montré du courage et là-dessus, elles me donnent du courage.
Sophie Jana.
Je regarde les frontières qu'elles ont traversées, je regarde les obstacles qu'elles ont eus sur leur chemin et qu'elles ont quand même eu ce courage-là pour avancer. Ben, moi, ça m'inspire, ça me donne du courage et en tant qu'artiste, il me semble que ça fait partie de mes missions de continuer à nourrir cette connaissance de qui elle était, de mettre la lumière sur des personnes qui risquent de tomber dans l'oubli, de faire la musique de notre temps, d'encourager les artistes. Et heureusement, cette musique de Hildegard, il est si jouissif à programmer, parce qu'en fait, elle se marie avec énormément de choses. J'ai déjà programmé des concerts où ces textes étaient mis en musique par Ibrahim Malouf et par un ensemble de trompettistes et de percussions. J'ai exploré sa musique dans des chapelles avec 500 bougies allumées et projetées sur une toile en soie étaient ses visions. Je l'ai fait pivoter pour qu'elle tourne dans l'espace. J'ai pu mettre sa musique avec la polyphonie de la Renaissance, avec des improvisations, avec des synthétiseurs, avec la viole de gambe, avec et un peu vraiment avoir énormément de créativité spontanée qui naît quand on vise à programmer sa musique. Et parfois, il est tout simplement inspirant de retrouver sa musique dans sa forme la plus simple, la plus nue, et rester sur la monodie sans rajouter des bourdons, sans rajouter des instruments, de tout simplement savourer ces pièces qui sont des accomplissements artistiques absolument incroyables et de pouvoir les offrir au public aussi dans un temps lent où le concert est presque une méditation.
Parler de chemin, mais moi, pour moi, ce projet, c'est aussi comme si, en fait, on avait tiré le bout d'une pelote et pendant des années, on a cessé de tirer cette pelote. Et cette pelote nous a permis d'apprendre la musique, mais elle nous a conduit, en fait, dans une conquête, dans une exploration, dans une découverte, comme si, en fait, on suivait ce fil laissé il y a 1000 ans et puis on le tire avec et en voyant où il nous emmène.
Oui, comme une ligne de vie. En termes de marine, ça me devient comme ça. Ouais. Voilà, une ligne de vie.
Si on veut découvrir ce répertoire, il faut le faire vraiment, il faut le prendre à la mesure de ce qui nous permet de modifier dans nos pratiques, et aussi de ce qui nous permet d'atteindre, en termes de radicalité presque, ou d'intensité d'expérience, pas de l'utiliser comme une petite saveur un peu féministe, un peu médiévale, un peu mystique, mais de voir en fait comment notamment cette musique modale, notamment ce vertige des mélismes infinis, peut résonner avec un désir très contemporain, on va dire, ou partagé par beaucoup de nos contemporains, de continuer à repousser les limites, les conventions, les durées, les formats, les fonctions de pourquoi on fait de la musique. Et ça nous semblait, en fait, que Hildegard deviendrait vraiment puissant si, en fait, ça nous permettait d'excéder ces cadres-là. Et du coup, la condition, ça semblait de tout faire, justement pour pouvoir toucher aussi, je sais pas si c'est au vertige ou à l'extase ou à la perdition, en fait, que permet cette musique quand elle est jouée dans une durée longue. Parce qu'on peut entendre 5 minutes d'Hildegard, on dit « Ah, intéressant », mais quand en fait on l'entend pendant 3 heures, il y a aussi les contours en fait de qu'est-ce qui clôt une pièce, qu'est-ce qui fait œuvre. Tout se floute, tous les périmètres, toutes les frontières, toutes les catégories se dissolvent. Et d'un coup, ça nous semblait que c'était la condition pour toucher à quelque chose qui est plus puissant et aussi peut-être très en phase, très en écho avec l'urgence artistique de voir comment les conventions du moment nous brident et nous empêchent d'atteindre certaines émotions.
Hallo? Wohin gehen wir? Wir gehen jetzt ins Gästerefektorium. Das hat die beste Akustik.
Okay, on va au réfectoire, c'est ça? Oui, on va au réfectoire.
Vous avez commencé la musique à quel âge?
J'ai commencé l'orgue à 8 ans. À 9 ans, j'ai appris à jouer les 4 flûtes à bec avant de me mettre à la guitare. À 16 ans, j'ai commencé la flûte traversière pour préparer mes études de professeur de musique. J'ai choisi la flûte en instrument principal et le piano en deuxième instrument.
Quand vous jouez de la flûte traversière, quand vous jouez du bac comme ça, on a l'impression que vous jouez, voire même que vous chantez avec les anges.
Das ist ja auch in unserer Kirche so ausgemalt.
C'est ce qu'on voit ici sur les fresques de notre église. Ça se passe à Jérusalem, les pèlerins prient avec les sœurs, les anges, les apôtres et Dieu le Père. Ils chantent et ils jouent tous ensemble.
Das ist himmlische Jerusalem.
Sœur Lydia, est-ce que on faisait de la musique dans votre famille et est-ce que quand vous étiez petite fille, vous jouiez de la musique en famille?
Mon
père ne jouait d'aucun instrument. Ma mère était sitariste et ma sœur jouait du piano. Ici, j'organise 4 cours de musique Hildegardien par an. La musique d'Hildegard se chante difficilement. Il est important que les gens trouvent du plaisir en chantant et nous travaillons ensemble aussi bien la mélodie que le texte parce que tout est lié. C'est une musique qu'il faut répéter de nombreuses fois pour bien se l'approprier. Quand nous chantons un chant d'Hildegard, j'aime beaucoup faire une introduction à la flûte pour qu'on se familiarise avec sa mélodie. Ce sont quelques intention musicale qu'on retrouve dans le morceau. Là, je vais jouer une improvisation sur le Caritas Abundat d'Hildegarde. L'improvisation mélodique dans ces modes religieux permet de planer librement, sans trop de contraintes. Pour son époque, la musique d'Hildegarde était déjà très novatrice. La musique moderne ou postmoderne a cassé les règles ou essayé de les abandonner. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans la musique d'Hildegarde.
Qu'est-ce que vous allez faire, Sœur Lydia ?
Je vais ranger ma flûte et je vais participer à la discussion de notre communauté qui a lieu dans quelques instants. À 17h30, ce sera les vêpres. Ensuite, nous irons dîner. Et après, je vais recevoir une dame qui fait des exercices spirituels avec moi. Et puis, il y a les complis et la veille. Et après la veille, je vais encore recevoir un groupe d'anglais pendant une heure pour évoquer la vie et l'histoire d'Hildegarde. Et ensuite, j'irai me coucher.
The 12th century is sometimes referred to as an...
Le XIIe siècle est parfois qualifié de Renaissance. En d'autres termes, une redécouverte de l'Antiquité.
Benjamin Bagby.
Et cela est lié à la production de livres et de manuscrits musicaux qui se développent de manière exponentielle au XIIe
siècle.
Le XIIe siècle a en effet été le témoin d'une énorme expansion de l'intérêt pour le passé et de l'activité créatrice tournée vers l'avenir, dans la création de la musique polyphonique et dans la création de manuscrits. Et au XIIIe siècle, tout explose, tout à fait. C'est pourquoi nous avons ces manuscrits d'Hildegarde. Ils datent de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, période d'expansion. C'est une période extraordinaire. Elle est liée à la découverte du passé. Elle est également liée à la découverte de textes anciens et aux premières traductions de l'arabe, des traductions du grec, et des traductions de l'hébreu. Nous avons accès à des textes qui nous étaient fermés jusqu'alors. Il y a donc énormément d'activités en cours.
Salut, tige verdoyante, poussée au grand vent de l'appel des saints. Lorsque vint le temps de ta floraison, ce fut salutation en tes rameaux. La chaleur du soleil se déversait en toi comme un baume de senteur. Car tu faisais fleurir une fleur de beauté qui redonnait leur parfum à tous les arômes évanouis. Et ils furent tous d'éclat et de fraîcheur. Le ciel répandit sur l'herbe sa rosée. La terre entière se réjouit, car ses entrailles produisaient le blé et les oiseaux du ciel en elles avaient leur nid.
The texts...
Les textes sont très étranges. Ils ne sont pas normaux pour des textes du XIIe siècle. Elle crée un imaginaire en utilisant le latin, ce qui ne ressemble à rien de connu au XIIe siècle. Et c'est une chose que la musique d'Hildegarde peut offrir, parce qu'elle est si étrange. C'est comme entendre une langue que vous n'avez jamais entendue jusqu'alors, avec un accent que vous n'avez jamais entendu avant, un son nouveau, quelque chose d'unique.
We're talking about the music of the spheres, which is an ancient idea. It's Neoplatonic.
Nous parlons de la musique des sphères, qui est une idée ancienne. Elle est néoplatonicienne et a à voir avec l'étude de tout ce que nous appelons les arts libéraux, qui sont divisés en deux sections. Il y en a une qui s'appelle trivium et l'autre qui s'appelle quadrivium. Le quadrivium parle de la mesure.
And the quadrivium deals with measure. How do you measure things? You measure them with numbers.
Alors, comment mesure-t-on les choses? Vous les mesurez avec les nombres, dans l'espace. Comment les nombres se rapportent les uns aux autres dans un plan? C'est la géométrie.
And that's geometry, geometria.
Et enfin, la troisième question est la suivante. Comment se rapporte-t-on à ces mesures en dehors d'un plan ? Ils commencent donc à se déplacer dans l'espace et à déplacer les nombres dans l'espace comme n'importe qui peut le voir qui a regardé le ciel nocturne. C'est l'astronomie, les mouvements des corps célestes.
And then you have musica, which is considered
science. Et puis, il y a la musica, qui est considérée comme une science parce qu'elle implique l'ouïe, la sensation et l'aspect humain de la mesure.
Feeling and human aspect of measure. So if you feel like you belong to your family,
si vous avez le sentiment d'appartenir à votre famille, à votre peuple ou à votre église, il s'agit d'une relation que vous entretenez avec d'autres êtres humains et vous résonnez les uns avec les autres d'une manière que l'on peut presque entendre. Mais ce n'est pas encore vraiment audible. La troisième catégorie est celle des musiques instrumentales. C'est la musique que l'on peut entendre. Il s'agit de tout corps sonore. C'est se dire qu'on n'est pas seul dans ce monde, mais qu'on fait partie d'un immense système.
Hildegard, quand elle chante avec ses sœurs, est-ce qu'elle essaie de chanter la musique des sphères ?
Il est certain qu'en écoutant sa musique et en la chantant, nous pensons qu'il se pourrait très bien qu'elle essaie de nous donner une idée de ce à quoi cette musique pourrait ressembler. Cette musique, la musique des sphères, cette musique du monde.
C'était Hildegard de Bingen, deuxième épisode, la compositrice visionnaire. Avec Léo Henry, Benjamin Bagby, François Chéniaud, Marie-Pierre Bréban, Pierre Lemarquis, Sophie Janin, Camille Fritsch, Laurence Moulinier et Geneviève Bureur-Thierry. Un grand merci à Marion Ennis et Katia Zimmermann pour leur aide précieuse. Les visions, les lettres et les poèmes ont été lus par Marie Constant, Renaud Bertin-Cordoliani et Andrea Schiffer. Merci à toute la communauté des bénédictines de l'abbaye d'Hildegard pour leur formidable accueil. Documentation musicale, Antoine Villose. Prise de son, Yann Fressy et Martin Troadec. Mixage, Manuel Couturier. Coordination, Christine Bernard. Hildegard, génie cosmique. Une grande traversée d'Aurélie Sfez, réalisée par Benjamin Hu. À suivre, épisode 3, La mère nature.